Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de trois émissions sur « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux ?» Aujourd'hui, notre quatrième et dernière émission sur la résistance à Nîmes, plus précisément l'année 1944.
Vers Pâques 1944, Sauveur Pagnelli, inspecteur d'Académie du Gard, organise la résistance à Saint-Hippolyte, au château du Figaret, tandis qu'une quinzaine de réfractaires cachés attendent d'être appelés par le maquis de La Salle, qui n'a pas assez d'armes. Ils se réfugient à Puech-Cuillère, vers Pompignan, en cas d'alerte.
Depuis mars, le maquis Birakem, bien armé et commandé par Jean Capel, commandant Barreau, en lien avec les chefs de la résistance, Alger, mais aussi probablement les services secrets britanniques, cantonne dans la vallée française à la Picharlerie et lance des actions. Ce maquis jouit d'un grand prestige auprès de nombreux jeunes qui appartenaient à d'autres maquis de l'ASS, débauchage reproché par les autres chefs. Or, le 7 et 8 avril, ces Birakins anéantissent une patrouille de la Feld Gendarmerie à Saint-Étienne-Vallée-Française, ce qui déclenche une opération des Waffen-SS. Le 13 avril, 2000 soldats de la Panzerdivisionen de Nîmes et Alès attaquent et détruisent la Picharlerie. On fuit sur la route de la Corniche pour échapper à l'encerclement. Le 29 avril, c'est au tour du maquis de Galabertès, des antifascistes allemands, présents depuis au moins 1943 dans la résistance sévenole, d'être attaqué au plan de Fontmort. Début mai, tous ces maquisards pourchassés se réfugient au château des Fonces sur l'Égoile.
Le 3 mai, un conseil se tient à la ferme de la Glanière entre Toiras et La Salle, entre le commandant Barreau, les chefs des maquis AS et Aura des Cévennes, Gardoises et Lozériennes, les FTPF, les guérilleros espagnols de l'AGE ou les leaders aguerris des Allemands anti-nazis. Comme ces derniers refusent de se rallier, ordre leur est donné de quitter les basses Cévennes où l'expérience des combats d'avril avait convaincu Barreau des dangers de leur stratégie trop audacieuse et imprudente pour la population locale et les nombreux persécutés cachés par les Cévenols.
De fait, la majorité du maquis école de la Picharlerie et des membres de la brigade Montaigne, avec beaucoup d'étrangers, Allemands, Autrichiens, Belges, Tchèques, rallient Capel, qui se retranche sur le Causse Méjean, forteresse naturelle, facilement défendable, pourvue d'un terrain d'atterrissage utile dans la perspective d'un débarquement sur le littoral méditerranéen.
La répression se poursuit. Le 10 mai, Robert Francisque est tué et le château de Malérargues incendié. Le même jour, deux maquisards sont capturés, avec pour conséquence l'arrestation de Jean le Serbe et de ses camarades. Le 11 mai, les Waffen-SS interviennent au hameau des Hortes, près de Soudorgue, suite à une trahison. Le 18 mai, les SS reviennent à La Salle et arrêtent les auxiliaires du maquis, dont Jean Paulhan, l'industriel de Saint-Jean-du-Gard, complice des maquisards.
À Nîmes, Charlie Sam Jalat est arrêté le 23 mai 1944 devant le Café de Paris. C'est un lycéen ardéchois, né en 1925, installé avec ses parents à Nîmes en 1935. Résistant, avec ses deux frères, Jean, dénoncé et jeté dans un puits après torture assez lasse durant l'été, et Pierre, l'aîné, qui participe au débarquement en Provence avant de reprendre entreprise de chaussures familiales de Saint-Hippolyte. Il se suicidera quand il apprendra que l'usine va être délocalisée. Torturé sauvagement au siège de la Gestapo du 13 boulevard Gambetta, Charlie Sam réussit à s'échapper le lendemain lors de son transfert et se réfugie dans une cave du quartier Nord, puis s'enfuit. Le 4 octobre, il reviendra à Nîmes et, devenu responsable des services de renseignement de la résistance du Gard, s'installera dans ce même immeuble libéré des Allemands. Devenu médecin, il avait en effet épousé Denise, la fille des Landauer, propriétaire de l'immeuble, avant sa réquisition, mais récupérée à la Libération. Et il y mourra en 1972.
Mis au courant par le préfet de la Lozère, les autorités allemandes décident de monter une expédition contre le maquis Birakem sur le Méjean. Le 28 mai, à 1h30 du matin, des forces allemandes, placées sous le commandement du capitaine Lange, dont deux compagnies de fusiliers de la Légion arménienne, renforcées par des groupes de mitrailleuses, de mortiers, de canons anti-chars et de pionniers, se scindent en deux colonnes. L'une contourne le Kos par le sud jusqu'à Meroès, où elle se divise en deux sous-groupes afin de mieux surprendre le cantonnement. L'autre sous-groupe, commandé par le capitaine Lange, pénètre sur le Kos au nord par Carnac.
Les mitrailleurs espagnols que Barrault avait postés sur la route de Meroès sont abattus, tandis que le groupe, venu du nord, attaque directement le château, la Paire à Laborie, où se trouvait l'état-major de Birakem qui riposte. 20 minutes après le début des combats, Barrault tente une sortie, mais est mortellement blessé. Entre-temps, un groupe commandé par Pierre, Henri Jourdan, posté vers Carnac au nord, tient en échec des Arméniens pendant 20 minutes. Vers 11h, les occupants du château de Laborie tentent une nouvelle sortie commandée par Marcel de Roquemorel, qui est tué à son tour. À 15h, 5 des maquisards qui occupaient encore une grange près du château La Paire hissent un drapeau blanc. À 16h, les 20 derniers défenseurs du château se rendent.
Arrivèrent ensuite 120 hommes de la Wehrmacht en provenance de Millau pour relever les troupes épuisées venues de Mende. Ils poursuivirent le pillage de la parade et du hameau de la Borie, commencé plus tôt dans l'après-midi devant les habitants enfermés dans le café Arnal. Pendant la soirée et la nuit, ils retrouvèrent 11 maquisards qui se cachaient encore. 3 furent tués en combattant. Les 8 autres furent fusillés à l'aube. Le 29 mai, les Allemands demandèrent au maire de Meroès d'enterrer les cadavres des Birakins. Les 34 tués à la parade, dont 19 Français, 3 Allemands, 1 Autrichien, 1 Belge et 10 Espagnols. Les 27 prisonniers amenés à Mende, pour certains sauvagement torturés et finalement fusillés à Badarou.
Le 27 mai, pour détruire les infrastructures ferroviaires et bloquer les armées allemandes dans le sud, 125 bombardiers américains lâche 450 bombes sur les gares de Nîmes, mais une bombe tombe sur l'hôpital avec de nombreuses victimes. On dénombre en tout 271 morts, 289 blessés et plus de 440 bâtiments détruits et 5000 sinistrés. La propagande de Vichy titre « Les inhumaines agressions anglo-américaines sur la région méditerranéenne, Marseille, Avignon, Nîmes, Montpellier, bombardées, à Nîmes 200 morts et 250 blessés. Après tant de cités martyrs, Nîmes a vécu samedi les heures les plus tragiques de son histoire et encore eu à enregistrer. Les prétendus libérateurs ont semé la dévastation et la mort. »
Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie et les nazis considèrent que les forces de Vichy sont complices ou impuissantes à rétablir l'ordre. De fait, de plus en plus de membres des brigades de gendarmerie font alors défection et gagnent le maquis. Les Allemands mettent en place des unités spéciales en Basse-Cévennes, les commandos de chasse très mobiles, frappant par surprise et disparaissant ensuite.
Entre juin et juillet, 28 résistants, dont 2 femmes, seront pris, incarcérés torturé et finalement abattu par la Waffen-SS française dans le fort Vauban d'Alès, avant d'être jeté à Servas dans l'ancien puits de lignite désaffecté de Sélas. Finalement, 87 résistants auront été arrêtés en 3 mois et beaucoup d'entre eux torturés dans les caves du 13 boulevard Gambetta avant leur exécution ou déportation. Parmi eux, 2 dirigeants du MLN, Salan et Saint-Onac. Cependant, le 16 juin, un combat est remporté par le maquis de La Salle au château de Cornélie, faisant 21 morts et 68 blessés pour les Allemands, 1 mort et 2 blessés du côté des maquisards.
Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ici Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures.
Pendant ce temps, le pasteur Olivet s'était caché, mais après avoir mis sa famille à l'abri, il revient dans les Cévennes pour rassembler ses hommes. Le 29 juin, à Talleyrac, il participe avec Rascalon à la réunion décisive qui crée un maquis unique chargé de coordonner l'action dans les Alliés. Le 12 juillet 1944, les 178 maquisards d'Ardaillès rejoignent les 207 du maquis de La Salle et, par sécurité, quittent la région de La Salindrinque pour gagner l'Espérou, fondant le maquis Aigoual-Cévennes, bientôt grossi de réfractaires et de différents corps francs. On évoque 1000 puis 2000, voire 2500 hommes.
Le 14 juillet, cependant, une quinzaine de réfractaires au STO défilent dans les rues de Saint-Hippolyte avant de rejoindre l'Aigoual. Par Colognac, on monte vers Faverolles où l'on rencontre les francs-tireurs espagnols des Plantiers. Le lendemain, tous rejoignent la maison forestière d'Air de Côte, tenue par Madame Berrière, restée seule. Le 19, une quarantaine de francs-tireurs réfugiés dans les bois de Mounier et du Coutat, qui montaient à leur tour, se font accrocher vers Monoblet, où ils laissent 3 morts. Les différents groupes de maquisards sont ensuite installés autour de l'Espérou. Ainsi, basé à Montlo, en charge d'une mitrailleuse, le groupe 11 est complété par d'autres venus de La Salle, Sumène ou des environs.
Le 22 juillet, le commandant d'aviation Colas Matignon, désigné par la délégation militaire régionale en relation avec Alger, arrive à l'Espérou et valide les statuts du rassemblement Aigoual-Cévennes. Cette confiance des autorités d'Alger et finalement des alliés explique les importants parachutages d'armes dont ce maquis va exceptionnellement disposer. On retrouve au QG installé dans une villa de l'Espérou René Rascalon, avec Marcel Bonafou et Guy Arnaud, corps franc de La Salle, le pasteur Olivès d'Ardaillès, Cassé de Gange, ouvrier, et Jean Castan, petit Marceau, d'Air de Côte et Jean Viala.
Le maquis est équipé par plusieurs parachutages vers le col de Ray, mais vivres et essence viennent par camion de la plaine. On estime qu'à la fin juillet, un millier d'hommes peuvent être équipés quand les Alliés procèdent à un parachutage d'armes à l'Espérou. Le 25 juillet, puis un second à l'est de Ganges le 1er août. Aigoual-Sévène entreprend dès lors des actions directes contre les forces allemandes avec un premier affrontement à Pont-d'Hérault.
Le 10 août, c'est un coup de main sur le Vigan. Pensant que les Allemands démoralisés allaient se rendre avec leur renfort arménien, qu'ils descendent, mal coordonnés, par Arfi et Marcel Bonafou et tués place de Bonald lors de l'assaut. Décrochage et certains groupes ne rentrent pas le lendemain. Toujours à Lunel, Toureille assiste au repli des troupes allemandes vers Nîmes dès le 13 août, tandis que le 14, une partie des maquisards quitte l'Espérou pour Sumène et se positionne au nord de Ganges pour éviter qu'une colonne de blindés prenne à revers les maquisards combattant à Pont-d'Hérault.
Le 15 août, tandis que Paris est libéré, les Alliés lancent l'opération Dragoon sur les côtes de la Provence destinée à ouvrir un second front. Le 21 août, les corps francs libèrent Alès et le 23, Delattre libère Montpellier, tandis que de Ganges, aidés par une formation de gendarmerie, les maquisards harcèlent Sommières, Salinelles et Saint-Hippolyte-du-Fort, les troupes allemandes en repli depuis Toulouse et Rodez. Ainsi, le 24 août, une colonne allemande, arrivée par le sud, sur Ganges, ne peut franchir l'Hérault, tenue par les maquisards du lieutenant Coutances, avec des renforts venus de Saint-Hippolyte, et Quissac se libère.
Le 25 août, une colonne allemande est décimée à Saint-Hippolyte, tandis que les FFI locaux font sauter le pont de Lunel et que les maquisards entrent dans Nîmes, vidés de ses occupants. Paganelli s'installe à la préfecture, désertée comme nouveau préfet, et nomme à la mairie Paul Cabois, président du comité local de libération de Nîmes.
Le 26 août, les maquisards vont de Saint-Hippolyte à Sardan, tandis qu'une colonne allemande de 300 hommes est bombardée par les Alliés vers Lec. Le 27 août, Lunel est libéré, mais plusieurs centaines de soldats de la 11e Panzerdivisionen forcent le passage du Vidourle à Quissac au lever du jour. Deux chefs du maquis sont tués au combat, puis c'est une violente canonnade, le pillage et une prise d'otage. Deux sont fusillés, mais les autres s'enfuient à la faveur d'un bombardement aérien allié. Finalement, les Allemands fuient vers Saint-Théodorite, Grignon et Saint-Just et Vacquières. Le 29 août, René Rascalon et les maquisards de l'Aigoual-Sévène entrent dans Nîmes, où la nouvelle administration est en place.
Après la libération, des FFI de l'Aigoual rejoindront la première armée de Delattre dans le bataillon des Cévennes du commandant Magnan, un résistant de Salindre. Certains rejoignent la 2e DB de Leclerc de janvier à août 45. Alix Bedos étant chargé de prendre la direction de la Fédération nationale des déportés politiques, deux équipes, aidées par la Croix-Rouge, se relaient à son domicile pour prendre en charge les rescapés gardois qui reviennent au fur et à mesure de la libération des camps par les Alliés.
Le 5 mai 45, le camp de Mauthausen est enfin libéré, un des derniers, par la 11e division blindée de la 3e armée américaine. Charles Bedos peut enfin revenir à Nîmes. Avec le pasteur Boniface, ils témoigneront inlassablement dans les écoles pour tenter de convaincre du « plus jamais ça ». Les Rascalons retrouvent, eux, une vie normale. René reprend son activité de plombier et écrit ses mémoires.
Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare un murmure, en passant vous saisit. Paris direct, en voiture, ah, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage. Car en sortant, tout vous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur le trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des titis. Mon départ illimi, dernière heure, madame, ça sent bon le pays. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais les rêves bleus, les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, ça sent si bon la France. Le petit bistrot où l'on vous fait crédit, ah, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut pas s'en faire, repos jusqu'à